Acte troisième. La cour du château. Le matin du mariage de Bertha et du chevalier. Scène première. Bertha, Hans, des serviteurs, puis le gardeur de port. Un serviteur. La chorale déjà s'installe dans le chœur. Hans. Qu'est-ce que tu dis ? Un autre serviteur. Il parle des chanteurs pour votre mariage. Hans. Et toi, tu ne peux pas parler autrement ? Tu n'as pas un langage plus simple ? Un serviteur. Longue vie à Bertha, vive la mariée. Hans, va-t'en. Bertha. Pourquoi cette colère, Hans, en un pareil jour? Hans, comment, toi aussi? Bertha. Je vais être ta femme et tu fais ce visage. Hans. Toi aussi, tu parles comme eux. Bertha. Que disait-il de si mal? Il se réjouissait de notre bonheur. Répète ta phrase, vite, vite, sans changer un mot. Que disait-il de si mal? Il se réjouissait de notre bonheur. Enfin, merci. Bertha, tu m'effraies, Hans. Depuis quelques jours, tu m'effraies. Hans, toi qui sais tout des Wittgenstein, apprends encore ceci. Le jour où le malheur doit leur faire visite, les serviteurs se mettent sans raison à parler un langage solennel. Leurs phrases sont rythmées, leurs mots nobles. Tout ce que tes poètes se réservent dans ce monde passe soudain aux lavandières, aux palefreniers. Les petites gens voient soudain ce qu'ils ne voient jamais. La courbe des fleuves, l'hexagone des rayons de miel. Ils pensent à la nature, ils pensent à l'âme. Le soir, c'est le malheur. Bertha. Leurs phrases n'étaient pas des vers, elles ne rimaient pas. Hans. Quand les Wittgenstein entendent tout d'un coup l'un d'eux parler avec des rimes, réciter un poème, c'est que la mort est là. Bertha. Oh, Hans, c'est que dans les grandes heures, l'oreille des Wittgenstein anoblit tous les sons. Mais cela vaut sûrement pour les fêtes comme pour les deuils. Hans. Jusqu'au gardeur de port, paraît-il. Et nous allons bien voir. À un serviteur. Tu sais où est le gardeur de port, toi? Le serviteur. La colline d'Ajon. Hans, ferme ta bouche. Va me chercher le gardeur de port. Le serviteur. Sous un acacia. Hans, et cours. Bertha. Oh, Hans, moi je remercie les servantes de m'avoir laissé ce matin tous leurs mots humbles pour te dire que je t'aime. Tu me tiens dans tes bras, Hans, pourquoi ce visage? Que te manque-t-il en ce jour? Hans, de m'être vengé, de l'avoir forcé devant la ville réunie à confesser son état et son crime. Bertha. Depuis 6 mois, Condine a disparu. N'as-tu pu l'oublier? En tout cas, c'est le jour aujourd'hui pour l'oubli. Hans, moins que jamais. Si je t'offre aujourd'hui un fiancé méfiant, amoindri, humilié, c'est son exploit. Comme elle m'a menti. Bertha. Elle ne t'a pas menti. Tout autre que toi aurait deviné qu'elle n'était pas une des nôtres. Est-ce qu'elle s'est plainte une fois? Est-ce qu'une fois elle a dit non à ta volonté? Est-ce qu'une fois tu l'as vue colère ou malade ou impérieuse? À quoi donc reconnais-tu les vraies femmes? Hans. À ce qu'elle trompe. Elle m'a trompée. Bertha. Toi seule ne voyais pas. Toi seule n'as pas remarqué qu'elle n'employait jamais le mot « femme ». Lui as-tu jamais entendu dire « on ne dit pas cela à une femme, on ne fait pas cela à une femme » ? Non, tout en elle disait « on ne fait pas cela à une Ondine, on ne dit pas cela à une Ondine ». Hans, oubliez Ondine, me le permet-elle ? Ce cri par lequel j'ai été réveillée le matin de sa fuite, je t'ai trompée avec Bertram. Est-ce qu'il ne s'élève pas encore tous les matins du fleuve, des sources, des puits ? Est-ce que le château et la ville n'en résonnent pas par leurs fontaines et leurs aqueducs, à toutes les heures? Est-ce que l'Ondine en bois de l'horloge ne le crie pas à midi? Pourquoi s'acharne-t-elle à proclamer au monde qu'elle m'a trompée avec Bertram? Un écho. Avec Bertram. Bertha. Soyons loyaux, Hans. Déjà nous l'avions trompée elle-même. Peut-être nous a-t-elle surpris, et elle s'est vengée. Hans. Où est-elle? Que fait-elle? Tous mes chasseurs, tous mes pêcheurs sont en vain depuis 6 mois à sa poursuite. Et pourtant, elle n'est pas loin. On a trouvé à l'aube sur la porte de la chapelle un bouquet d'étoiles de mer et d'oursins. Elle seule a pu le poser, par dérision. Bertha. Ne crois pas cela. Les aventurières ne s'acharnent point. Une fois dévoilées, elles disparaissent, elles replongent. Je pense que l'expression vaut aussi pour les Ondines. Elle a replongé. Hans. Je t'ai trompé avec Bertram. Qui a parlé? L'écho. Avec Bertram. Bertha. Oh, Hans, nous payons ton erreur. Quoi donc a bien pu te séduire dans cette fille? Qui a bien pu te donner à croire que tu étais né pour les aventures? Toi, un chasseur de fées. Je te connais. Si tu veux être franc avec toi-même, avoue que ce qui faisait battre le plus fort ton cœur, dans les forêts hantées, c'était d'apercevoir quelques huttes abandonnées de bûcherons, d'y entrer en courbant la tête, d'y trouver avec l'odeur de meubles moisis quelques charbons mal éteints où rôtir une grive et allumer ta pipe. Et je te vois dans les palais dits d'enchanteurs. Je suis sûre que tu t'attardais à ouvrir les placards, à dépendre les robes, à te coiffer de vieux casques. Tu croyais chercher les esprits. Tu n'as jamais suivi que la piste humaine. Hans, je l'ai mal suivi. Bertha, tu l'as perdu, mais tu l'as retrouvé. Cette nuit d'hiver où tu m'as dit que tu m'aimais encore et où j'ai fui, tu l'as retrouvé, au revers du vieux burg, quand tu as vu mes deux pas dans la neige. Ils étaient larges, profonds. Ils avaient marqué toute ma fatigue, ma détresse, mon amour. Ce n'étaient pas ces empreintes à peine visibles d'Ondine que tes chiens eux-mêmes ne voient pas et qui restent des sillages sur la terre ferme. C'était celle d'une femme enceinte de la vie humaine, enceinte de ton futur fils, celle de ta femme. Il n'y a pas eu d'empreinte de retour. Tu m'as rapporté dans tes bras. Hans. Oui, comme Bertram a dû, elle, l'emporter. Que veux-tu, toi? Un serviteur. C'est le gardeur de port, seigneur, vous l'avez appelé. Hans. Eh bien, approche. Comment vont-ils, tes porcs? Le gardeur de port. Mon sifflet est de saule et mon canif de buis. Hans, je te parle de tes porcs, de tes truies, le gardeur de porcs. Sous un acacia? Hans, tais-toi, le serviteur. Méfiez-vous, il est sourd, le gardeur de porcs. Dont l'ombre est, Hans, mets ta main devant sa bouche, le serviteur. Il parle dans ma main, il parle d'hexagone. Hans a un autre serviteur. Faites taire celui-là aussi. Le deuxième serviteur, qui a mis aussi sa main devant la bouche du premier. Je ne sais ce qu'ils ont, ils parlent tous en vers. Hans, allez me chercher la fille de vaisselle. Entendez-vous? Nous verrons ce qu'elle dit, la fille de vaisselle. Scène 2. Bertha, Hans, deux pêcheurs. Le premier pêcheur. Monseigneur, monseigneur. Hans, dis-le quatre fois et c'est un verre. Le second pêcheur. Nous l'avons, elle est prise. Hans, Ondine est prise? Le premier pêcheur. Dans le Rhin, pendant qu'elle chantait. Le second pêcheur. Elle est comme les coqs de bruyère, on peut s'approcher quand elle chante. Hans. C'est elle? Vous en êtes sûr? Le premier pêcheur. Sûr et certain. Elle a rabattu ses cheveux sur son visage, mais sa voix est merveilleuse. Sa peau est de velours. Elle est faite à ravir. C'est elle, le monstre. Le second pêcheur. Les juges montent avec elle. Bertha. Quel juge? Le premier pêcheur. Les juges d'évêchés et d'empire, qui jugent des cas surnaturels. Ils étaient en tournée. Le second pêcheur. Ils arrivaient de Bingen, pendre une serpentine. Bertha. Pourquoi tenir leurs assises au château? Le tribunal n'est-il pas libre? Le premier pêcheur. Ils disent, comtesse, que l'Ondine se juge toujours sur une éminence. Le second pêcheur. Et à distance du fleuve. Et encore qu'il faut prendre garde, qu'elles peuvent le rejoindre sur le ventre comme l'anguille l'étend, et que d'ailleurs le chevalier est demandeur dans le procès. Hans. Je le suis. Depuis 6 mois j'attends pour l'être. Laisse-nous, Bertha. Bertha. Hans. Ne revois pas Ondine. Hans. Je ne vais pas revoir Ondine, tu les entends. Je vais revoir une Ondine, un être privé de vie humaine, de voix humaine, et qui ne me reconnaîtra même pas. Bertha. Hans, quand j'étais petite fille, j'ai été amoureuse d'un lynx. Il était imaginaire, il n'était pas. Mais nous dormions ensemble, nous avions des enfants. Or maintenant encore dans la ménagerie, je m'arrête en frissonnant devant la cage du lynx. Lui aussi m'a oubliée. Lui aussi a oublié que je le capuchonnais de pourpre, qu'il m'a sauvé des nains géants, que nos jumelles, Genièvre et Berthelinge, ont épousé le roi d'Asie. Il est là, dans son poil, sa barbe, son odeur. Mais mon cœur bat. Mais je me sentirais en faute si j'allais le voir en ce jour de noces. Le second pêcheur. Les juges, seigneur. Hans. Un moment, Bertha, et nous serons en paix. Scène 3. Hans, les juges, la foule, les pêcheurs, Grete, le gardeur de port, le roi des ondins en homme du peuple, le bourreau, serviteur. Le premier jour. À merveille. Altitude moyenne. Nous sommes exactement au-dessus du règne de l'eau, au-dessous du règne de l'air. Le second juge. C'est sur une de ces buttes, bonnes gens, que se posa la nef, le déluge baissant, et que Noé eut justement à juger les monstres marins dont les couples infernaux par les hublots avaient violé l'arche. Nos compliments, chevalier. Hans, vous arrivez à point. Le premier juge. Le fait que nous vivons dans le surnaturel nous donne des presciences inconnues de nos collègues du droit ou du braconnage. Le second juge. Notre mission est aussi et plus dure. Le premier juge, certes, il est plus aisé de juger du bornage entre les vignes de deux bourgeois que du bornage entre les hommes et les esprits. Mais l'interrogatoire ici s'annonce facile. C'est la première fois où nous jugeons une Ondine qui ne conteste point être Ondine. Le second juge. Car il n'est pas de subterfuge que ces êtres n'utilisent pour échapper à notre enquête, chevalier. Et ils ne laissent point parfois de prendre notre science en défaut. Le premier juge. En effet, ils l'ont prise avant-hier encore, mon cher collègue, dans cette affaire de Creuznach, quand nous jugeâmes la prétendue Dorothée, la servante de l'échevin. Vous étiez assez d'avis que c'était une salamandre. Nous l'avons mise au bûcher pour voir. Elle a grillé. C'était donc bien une Ondine. Le second juge. Hier également, cher président, avec cette Gertrude, la rousse aux yeux verrons qui servait la bière à Tübingen. Les bocs se remplissaient d'eux-mêmes, et, prodige qui ne comporte point de précédent, sans manchette. Vous l'estimiez une ondine, nous l'avons fait jeter sous l'eau, tenue par un fil d'acier. Elle s'est noyée, c'était donc bien une salamandre. Hans. Ondine est montée avec vous ? Le premier juge. Avant de l'introduire, chevalier, il nous serait précieux, puisque vous êtes demandeur, de savoir quel châtiment vous réclamez pour l'accuser. Hans. Ce que je réclame ? Je réclame ce que ses valets, ce que ses filles réclament. Je réclame le droit pour les hommes d'être un peu seuls sur la terre. Ce n'est pourtant pas grand ce que Dieu leur a accordé. Cette surface avec 2 mètres de haut, entre ciel et enfer. Ce n'est pourtant pas tellement attrayant la vie humaine, avec ses mains qu'il faut laver, ses rhumes qu'il faut moucher, ses cheveux qui vous quittent. Ce que je demande, c'est vivre sans sentir grouiller autour de nous comme s'y acharnent ces vies extra-humaines, ces harengs à corps de femme, ces vessies à tête d'enfant, ces lézards à lunettes et à cuisses de nymphes. Au matin de mon mariage, je demande à être dans un monde vide de leurs visites, de leurs humeurs et de leurs accouplements, seule avec ma fiancée, enfin seule. Le premier juge. C'est là la suprême exigence. Le second juge. Évidemment. Cela peut nous paraître déconcertant qu'ils éprouvent leur plus grande joie à nous voir prendre nos bains de pied, embrasser nos femmes ou nos bonnes, fesser nos enfants. Mais le fait est indéniable. Autour de chaque geste humain, le plus bas, le plus noble, affublé à la hâte de carcasse ou de peau en velours, le nez en groin ou le derrière en dard de guêpe, comme si c'était un miracle, ils s'amassent et forment leur ronde. Hans. Y a-t-il donc pas eu une époque, un siècle, qu'il n'ait empesté ? Le premier juge. Une époque ? Un siècle ? À ma connaissance, chevalier, il y a eu tout au plus un jour, un seul jour. Un seul jour, j'ai senti le monde délivré de ses présences et de ses doubles infernaux. En août dernier, sur les Cotterelles, derrière Augsbourg. C'était la moisson, et aucune ivraie ne doublait chaque épi, aucune nielle chaque bleuet. Je m'étais étendu sous un cormier, une pie au-dessus de moi, que ne doublait point un corbeau. Notre soie s'étendait jusqu'aux Alpes, vertes et bleues, sans que je visse au-dessus d'elle la soie désert peuplée d'anges à bec, ni au-dessous la soie d'enfer avec ses démons rouges. Sur la route, un lansquenet chevauchait, que n'accompagnait point le cavalier armé de faux. Sous les maïs, les moissonneurs dansaient par couple, auxquels ne s'entrelaçait point un tiers visqueux à face de brochet. La roue du moulin tournait sur sa farine, sans que l'assainît une roue immense dont les rayons battaient des damnés nus. Tout était voué au travail, aux cris, aux danses, et cependant je goûtais pour la première fois une solitude, la solitude humaine. Le corps de la diligence résonnait sans que le doublât la trompette du jugement. C'est le seul moment de ma vie, chevalier, où j'ai senti les esprits abandonner la terre aux hommes, où un appel inattendu les ait convoqués vers d'autres retraites, d'autres planètes. C'était évidemment, si cela durait, la fin de notre carrière, mon cher collègue. Mais nous ne risquions rien. Soudain, en une seconde, le lansquenet fut rejoint par la mort. Les couples se trouvèrent trois. Des balais et des lances pendaient par les nuages. L'autre planète les avait déçus, ils revenaient. En une seconde, tous étaient revenus. Ils avaient tout quitté, comète, firmament, feu du ciel, pour revenir me voir m'éponger et me moucher, avec un mouchoir à losange. Voilà l'accusée, qu'un garde la maintienne debout. Si elle se met sur le ventre, ce sera comme la femme anguille de dimanche, elle sera au Rhin avant nous. Scène 4. Les mêmes, Ondine, puis Bertram, puis la fille de vaisselle. Le second juge. Les mains ne sont point palmées. Ah, elle a une bague. Hans, enlevez-la. Ondine, jamais, jamais. Hans, c'est un anneau de mariage, j'en ai besoin dans l'heure. Le juge, chevalier. Hans, le collier aussi, ce médaillon qui contient mon portrait. Ondine, laissez-moi le collier. le premier juge. « Chevalier, puis-je vous demander la conduite des débats ? Votre indignation, toute justifiée soit-elle, risque d'y introduire la confusion. La procédure d'identification d'abord. Hans, c'est elle. » Le premier juge, « Oui, oui, mais où est le pêcheur qui l'a prise ? Que le pêcheur qui l'a prise approche. » Ulrich, « C'est la première fois que j'en pêche une, monsieur le juge. Ah, je suis bien heureux. » Le premier juge, « Nous te félicitons. Que faisait-elle ? » Ulrich, « Je sentais que j'allais en prendre une. Depuis 30 ans, je sentais que j'allais en prendre une. Mais ce matin, j'en étais sûr. » Le premier juge, « Je te demande ce qu'elle faisait. » Ulrich, « Et je l'ai prise vivante. Celle de Regensburg, on l'avait assommée à coups d'aviron. Moi, je lui ai cogné juste la tête contre le bordage pour l'étourdir un peu. » Hans, « C'est vrai, brute, le sang coule. » Le premier juge, « Réponds donc aux questions. Elle nageait quand tu l'as prise ? » Ulrich, « Elle nageait, elle montrait sa gorge, ses fesses. Elle peut rester 10 minutes sous l'eau, j'ai compté. » Le premier juge, « Elle chantait ? » Ulrich, « Non. Elle a un petit aboiement, un peu rauque. Elle jappe, plutôt. Ce qu'elle jappait, je me le rappelle très bien. Elle jappait, je t'ai trompé avec Bertram. » Le premier juge, « Tu déraisonnes. Tu comprends les jappements. » Ulrich, « Jamais, d'habitude. Un jappement est un jappement. Celui-là, oui. » Le premier juge, « Elle sentait le soufre quand tu l'as tiré ? » Ulrich, « Non. Elle sentait l'algue, l'aubépine. » Le second juge, « Ce n'est pas vraiment la même chose. Elle sentait l'algue ou l'aubépine ? » Ulrich, « Elle sentait l'algue, l'aubépine. » Le premier juge, « Passez, cher collègue. » Ulrich, « Elle sentait une odeur qui disait « Je t'ai trompé avec Bertram. » Le premier juge, « Les odeurs te parlent maintenant. » Ulrich, « C'est vrai, vous avez raison. Une odeur, c'est une odeur, mais celle-là parlait. » Le premier juge, « Elle s'est débattue ? » Au contraire, elle se laissait prendre. Elle frémissait seulement. Un frémissement des reins qui voulait dire « Je t'ai trompé avec Bertram. » Hans, « Tu as fini de crier, imbécile. » Le premier juge, « Excusez-le, chevalier. Il n'est pas étonnant qu'il divague. L'âme simple succombe à de pareilles approches. Mais le témoignage d'un pêcheur professionnel est requis pour identifier un monstre aquatique. Il semble n'avoir aucun doute. » Ulrich, « Je jure devant Dieu que c'en est une. Elle est tête et gorge comme celle de Nuremberg, qu'on élevait dans la piscine. On lui avait mis un phoque. Ils jouaient au ballon. Ils ont même eu des enfants. Je me demande si ce n'est pas la même. La prime est doublée pour les vivantes, n'est-ce pas ? » Le premier juge, « Passe ce soir la toucher. Merci. » Ulrich, « Et mon filet ? Je peux reprendre mon filet ? » Le premier juge, « Tu l'auras à la date prescrite. Le surlendemain des débats. » Ulrich, « Ah, mais non, je le veux tout de suite, c'est un outil professionnel. J'ai à pêcher ce soir. » Le second juge, « Très bien, va-t'en, il est confisqué, il n'a pas la maille. » Le premier juge, « Achevez le constat, cher collègue. » Hans, « Halt, où allez-vous ? » Le second juge, « Je suis aussi médecin, chevalier, je vais examiner le corps de cette fille. » Hans, « Personne n'examinera Ondine. » Le premier juge, « Mon collègue est un praticien hors de pair, seigneur. C'est lui qui constata l'intégrité de l'électrice Josepha pour l'annulation de son mariage et elle a rendu hommage à son tact. » Hans, « Je certifie que cette personne est Ondine. Cela suffit. » Le second juge, « Seigneur, je comprends qu'il vous soit pénible de voir ausculter celle qui fut votre compagne, mais je puis, sans la toucher, étudier à la loupe les parts de son corps où s'amorcent les différenciations avec le corps humain. » Hans, « Voyez-la à l'œil nu. Et de votre place ? » Le second juge, « Voir à l'œil nu le réseau des vénules trilobées qui dessinent le serpent tentateur sous les selles de l'ondine me paraît opération assez impraticable. Ne pourrait-elle au moins marcher devant nous, enlever ce filet, écarter les jambes ?» Hans, « Ne bouge pas, Ondine. » Le premier juge, « Nous aurions mauvaise grâce à insister, et l'enquête, en somme, est suffisante. Est-il quelqu'un de vous, braves gens, qui conteste que cette femme fût une ondine ?» Grete, elle était si bonne. Le second juge, c'était une bonne ondine, voilà tout. Le gardeur de port, elle nous aimait, nous l'aimions. Le second juge, il y a une variété affectueuse, même du lézard. Le premier juge, passons donc au débat. Ainsi, vous, chevalier, demandeur à titre d'époux et de maître, vous accusez cette fille d'avoir, par sa qualité et sa présence d'ondine causée dans votre entourage, 1000 perturbations ? Hans, moi ? Jamais. le premier juge. « Vous ne l'accusez pas d'avoir introduit chez vous le bizarre, le surnaturel, le démoniaque ?»« Hans, Ondine, démoniaque ? Qui dit cette bêtise ?» Le premier juge. « Nous interrogeons le chevalier. Qu'y a-t-il d'anormal dans cette question ?» Le roi des Ondins, en homme du peuple. « Ondine, démoniaque ?» Le premier juge. « Qui es-tu, toi ?» Ondine. « Faites-le taire, il ment !» Le second juge. « La parole est libre, en pareil procès. » Le roi des Ondins. Ondine démoniaque. Cette Ondine-là, au contraire, renie les Ondins. Elle les a trahis. Elle pouvait garder leur force, leur science, elle pouvait faire 20 fois par jour ce que vous appelez des miracles, pousser une trompe au cheval de son mari, rendre ailer ses chiens. À sa voix, le Rhin, le ciel pouvait répondre et donner des prodiges. Non, elle a accepté l'entorse, le rhume des foins, la cuisine au lard. Est-ce vrai, chevalier ? Le premier juge. Vous l'accusez donc, si je vous comprends bien, d'avoir revêtu hypocritement l'apparence la plus favorable et la plus flatteuse pour dérober les secrets humains ? Hans, moi ? Certes pas. Le roi des Ondins. Vos secrets ! Ah, si quelqu'un s'en moquait des secrets humains, c'est bien elle. Évidemment, ils ont des trésors, les hommes, l'or, les bijoux. Mais ce qu'Ondine préférait, c'était leurs objets les plus vils. Son escabeau, sa cuillère. Ils ont le velours, la soie. Elle préférait le pilou. Elle, sœur des éléments, les trompait bassement. Elle aimait le feu à cause des chenets et des soufflets, l'eau à cause des brocs et des éviers, l'air à cause des draps qu'on pend entre les saules. Si tu as à écrire, greffier, écris ceci. C'est la femme la plus humaine qu'il y ait eu justement parce qu'elle l'était par goût. Le premier juge. Des témoins prétendent qu'elle s'enfermait des heures au verrou ? Le roi des Ondins. C'est exact. Et qu'est-ce qu'elle faisait, ta maîtresse Grete ? Quand elle se verrouillait ainsi. Grete. Des gâteaux, monsieur le témoin. Le second juge. Des gâteaux. Grete. Elle a travaillé 2 mois pour réussir la pâte brisée. Le second juge. C'est un des secrets humains les plus agréables. Mais elle élevait des animaux, raconte-t-on, dans une cour inabordable. Le gardeur de porc. Oui, des lapins. J'apportais le trèfle. Grete. Et des poules. Elle leur arrachait elle-même la peau de la langue dans la pépie. Le second juge. Ces chiens ne parlaient pas, ma petite, tu en es sûre ? Ces chats ? Grete. Non, moi je leur parlais, j'aime parler aux chiens, ils ne m'ont jamais répondu. Le premier juge. Témoin, merci. Nous tiendrons compte dans notre jugement de cette attitude. Que les succubes, incubes et autres visiteurs importuns reconnaissent l'excellence de la condition et de l'ingéniosité humaine, qu'ils apprécient notre pâtisserie, notre rétamage, nos papiers gommés pour les eczémas et les blessures, nous ne pouvons vraiment le porter à leur charge. Le second juge. J'adore la pâte brisée en ce qui me concerne. Elle a dû en user du beurre avant la réussite. Grete. Des mottes. Le premier juge. Silence. Et nous voilà au cœur de l'affaire. Je vous comprends enfin, chevalier. Femme, ce seigneur t'accuse d'avoir introduit dans son logis, au lieu de la femme aimante à laquelle il pouvait prétendre et que tu as quelque temps supplanté, un être uniquement adonné aux petits actes et aux agréments méprisables de la vie, un être égoïste et insensible. Hans, Ondine, ne pas m'aimer ? Qui ose le prétendre ? Le premier juge. Il est vraiment difficile de vous suivre, chevalier. Hans, Ondine m'a aimé comme aucun homme n'a été aimé. Le second juge. En êtes-vous si sûr ? Regardez-la. À vous entendre, elle tremble de peur. Hans. De peur. Va voir cette peur avec ta loupe, juge. Elle ne tremble pas de peur. Elle tremble d'amour. Oui, puisque c'est maintenant mon tour d'accuser, j'accuse. Prends ton écritoire, greffier. Mets ton bonnet, juge. On juge mieux la tête tiède. J'accuse cette femme de trembler d'amour pour moi. De n'avoir que moi pour penser, pour nourriture, pour Dieu. Je suis le Dieu de cette femme, entendez-vous ? Le premier juge. Chevalier. Hans. Vous en doutez ? Quelle est ta seule pensée, Ondine ? Ondine. Toi. Hans. Quel est ton pain ? Quel est ton vin ? Quand tu présidais ma table et que tu levais ta coupe, que buvais-tu ? Ondine. Toi. Hans. Quel est ton Dieu ? Ondine. Toi. Hans. Vous l'entendez, juge ? Elle pousse l'amour au blasphème. Le premier juge. N'exagérons rien. Ne compliquez pas la cause. Elle veut dire qu'elle vous révère. Hans. Pas du tout. Je sais ce que je dis. J'ai des preuves. Tu t'agenouilles devant mon image, n'est-ce pas, Ondine ? Tu baisais l'étoffe de mes vêtements. Tu faisais tes prières en mon nom. Ondine. Oui. Hans. Les saints, c'était moi. Les fêtes, c'était moi. Pour les rameaux, qui voyais-tu, entrant dans Jérusalem sur son âne, les pieds traînant à terre ? Ondine. Toi. Hans. Au-dessus de moi, qu'agitaient toutes les femmes en criant mon nom ? Ce n'étaient pas des palmes, qu'est-ce que c'était ? Ondine. Toi. Le juge. Mais où tout cela nous mène-t-il, chevalier ? Nous avons à juger une Ondine et non pas l'amour. Hans. C'est pourtant là le procès. Qu'il se range à cette barre, l'amour, avec son derrière en rubané et son carquois. C'est lui l'accusé. J'accuse l'amour le plus vrai d'être ce qu'il y a de plus faux. L'amour le plus déchaîné d'être ce qu'il y a de plus vil, puisque cette femme, qui ne vivait que d'amour pour moi, m'a trompé avec Bertram. L'écho. Avec Bertram. Le premier juge. Nous nageons dans l'incohérence, chevalier. Une femme qui vous aime à ce point ne peut vous avoir trompé. Hans. Réponds-toi. M'as-tu trompé avec Bertram ? Ondine. Oui. Hans. Jure-le. Jure-le devant les juges. Ondine. Je jure que je t'ai trompé avec Bertram. Le juge.
Alors c'est qu'elle ne vous aime pas. Ces affirmations ne prouvent rien. Vous lui laissez vraiment peu de jeu dans ses réponses.
Mon cher collègue, vous qui réussissez à prendre en défaut Geneviève de Brabant elle-même quand elle assurait préférer sa biche à son époux, les naseaux de sa biche aux joues de son époux, posez à cette Ondine les trois questions prescrites. La première, le second juge désignant Hans. Ondine, quand cet homme-là a couru, que fais-tu ?
Ondine, je perds le souffle.
Le premier juge, la seconde.
Le second juge, quand il s'est cogné, pris le doigt ?
Ondine, je saigne.
Le premier juge, la troisième.
Le second juge,
quand il parle, quand il ronfle dans son lit ?
Excusez-moi, seigneur.
Ondine, j'entends chanter.
Le second juge, aucune faille dans ses paroles, elles semblent sincères. Et cet être qui est tout pour toi, tu l'as trompé.
Ondine, oui, je l'ai trompé avec Bertram,
le roi des Ondins.
Ne crie pas si fort, j'ai entendu.
Le second juge,
tu n'aimes que lui, lui seul existe, et tu l'as trompé.
Ondine, avec Bertram.
Hans, voilà, vous savez tout.
Le premier juge, tu sais quel est le châtiment de la femme adultère. Tu sais que l'aveu, loin d'atténuer la faute, l'amplifie.
Ondine, oui, mais je l'ai trompé avec Bertram.
Le roi des Ondins, c'est à moi que tu t'adresses, n'est-ce pas, Ondine ? C'est moi que tu prends à partie.
À ton aise, mon interrogatoire sera plus serré que celui de tes juges.
Où est Bertram, Ondine ?
Ondine, en Bourgogne, je dois l'y rejoindre.
Le roi des Ondins.
Où as-tu trompé avec lui ton époux ?
Ondine.
Dans une forêt.
Le roi des Ondins.
Le matin ? Le soir ?
Ondine.
À midi.
Le roi des Ondins.
Il faisait froid, il faisait chaud.
Ondine. Il gelait.
Bertram a même dit que la glace conserve notre amour. On n'oublie pas ses paroles.
Le roi des Ondins.
Très bien. Amenez Bertram. De la confrontation naît toute vérité.
Le second juge. Bertram a disparu depuis 6 mois. La justice humaine n'a pu le retrouver.
Le roi des Ondins. C'est qu'elle n'est vraiment pas forte.
Le voilà.